Jésus-Christ. On a une bonne nouvelle. Amen. Bien content de vous voir et avant de me lancer dans le message, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour l'Esprit Saint qui nous enseigne, qui nous accompagne. Et merci Seigneur pour ta présence avec nous en ce moment. Je te prie Seigneur que tu puisses toucher nos cœurs, que nos oreilles soient attentives à ce que toi tu dis profondément à notre esprit. Seigneur, nous avons besoin d'une parole fraîche venant de toi. Nous avons besoin d'entendre ta voix. Nous avons besoin, Seigneur, d'entendre la vérité. Je prie pour chaque personne ici ce matin, Seigneur, que tu puisses les toucher abondamment. Et je bénis et je te prie, Seigneur, pour le pasteur Fern et Claudette. Je prie, Seigneur, que tu puisses les bénir, les fortifier, Seigneur, dans leur ministère. Merci pour leur vie. Merci pour leur foi, leur fidélité en toi. Et Seigneur, on te prie et on te bénit aussi pour pasteur Luc, sa fidélité dans l'œuvre de Dieu. Bénis-le dans son église et puis pour cette responsabilité encore dans cette église ici. Sois avec lui et son épouse. On te bénit, Seigneur, pour la grande famille de Dieu, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions et son peuple dit Amen. Amen. Eh bien, nous entrons dans la semaine sainte. Combien savent que toutes les semaines sont saintes? Mais surtout, cette semaine, on pense, on médite ce que le Seigneur a fait pour nous. Et ce matin, le message, ce n'était pas fait dans ce sens-là, mais moi je dis ça tombe bien. Combien savent qu'avec le Seigneur, ça tombe bien? Toujours. Le message, le titre du message est ceci. Les chrétiens doivent-ils encore faire face à une nature du péché ou à une nature pécheresse? On va prendre un sondage tout de suite. On sait que enfants de Dieu, et ce matin, nous voulons sonder un peu la question, nous voulons que le Seigneur nous enseigne. Évidemment, en tant que chrétiens, nous avons toujours la tâche, la responsabilité de faire face au péché. Je ne pense pas qu'il y a personne ici qui dirait, « Bien, pasteur, je ne suis jamais troublé avec le péché. Je suis arrivé. » Je ne pense pas. Mais sauf qu'il faut voir le péché, il faut comprendre le péché comme lui comprend le péché. Et nous pouvons bénir le Seigneur de ce qu'il nous a donné sa parole pour savoir exactement la façon que Dieu définit le péché. Parce que si nous, on ne comprend pas adéquatement ce que c'est le péché, eh bien ça va déformer, ça va débalancer tout ce qu'on croit concernant le Seigneur, le plan de rédemption. On va minimiser cela. Si on ne saisit pas vraiment devant Dieu ce que c'est le péché, ça va influencer toutes les doctrines, tous les enseignements sur lesquels on est basé, le fondement des apôtres, les Saintes Écritures. On va voir ça d'une façon humaine et on va raisonner ce que c'est le péché. Mais merci Seigneur de ce que tu nous as expliqué. Tu nous as montré ce que c'est le péché. Jean, quand il a vu le Seigneur venir un jour pour le baptême, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. » Fait que ce matin, j'aime beaucoup le terme « agneau de Dieu ». C'est celui qui a pris nos péchés. Et ce matin, ce n'est pas vous enseigner le péché pour que ça nous condamne, c'est ça nous libère. La Bible dit, vous allez connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Cette parole illumine notre cœur, nous donne de la compréhension de voir Dieu, de voir nous autres-mêmes. Donc, Jésus est cet agneau de Dieu. Je l'ai vu cette semaine aussi dans Apocalypse 5. Il était question de l'agneau de Dieu. Il était, dans le chapitre 5, il était question que il y avait un livre, Jean était en vision, Jean a vu tout cela, il était là. Et il y avait un grand livre avec des sceaux, il y en avait sept. Et c'était les jugements qui devaient venir sur cette terre. Et ça s'en vient. C'est quelque chose qui s'en vient. Et Jean a vu cela et il pleurait. Il dit, il n'y a personne qui peut ouvrir. Il n'y a personne qui est digne d'ouvrir les sceaux, d'ouvrir, de rompre les sceaux et pour que les jugements de Dieu viennent sur les habitants de la terre. Il pleurait. Il était dans une tristesse. Personne, on ne pouvait trouver personne. Et puis tout à coup, il est venu un qui était de la tribu de Judas. Et un peu plus loin, dans le même passage, il dit, il y a un agneau de Dieu qui est venu. L'agneau de Dieu qui a été immolé. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Lui seul était digne de pouvoir ouvrir les sceaux. Et ce matin, il est capable d'ouvrir votre vie. Il est capable de vous donner une saison nouvelle. Il est capable de vous rencontrer, de nous rencontrer là où nous sommes. Et je bénis le Seigneur aussi de ce que ce qui s'en vient. Et présentement, ce n'est pas un message prophétique, mais on voit autour de nous, on voit le monde à l'envers. On voit le monde à la dérive. On voit toutes sortes de folies, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de stress, toutes sortes de choses qui s'accaparent du monde. Et on sait que le Seigneur prépare quelque chose. Et dans l'Apocalypse, ça parle des jugements qui s'en viennent. C'est la colère de Dieu. Et le monde, présentement, en ce qui concerne le péché, bien, il se moque de cela. Il ridiculise cela. Il pense que c'est quelque chose de la bonne vieille religion. C'est quelque chose que les gens se servaient pour nous dominer, pour nous faire peur, pour nous faire, enfin, pour nous, je ne sais pas quoi. Donc, ils ont cette image, et puis, publiquement, à la télévision ou à autres endroits, on s'éloigne de cela. Ce sont des idées démodées. Ce sont les idées qu'on ne peut plus entretenir ce que c'est le péché. Et les gens vivent comme bon leur semble. Ils veulent vivre leur propre vie. Et le péché, c'est un mot, ça les chatouille. C'est un mot là qui s'éloigne de ça tout simplement. Mais le Seigneur nous explique, le Seigneur nous montre vraiment ce que c'est. Donc, si on n'a pas une bonne façon équilibrée, basée sur la parole de Dieu, on sera emporté. Et ça serait la mentalité du monde qui va s'affixer, qui va s'installer en nous. Mais gloire à Dieu, nous voulons rester devant la sainte parole de Dieu. Nous voulons que notre façon de comprendre ce que Dieu dit et notre vie ici-bas, l'éternité, le présent, nous voulons que ça soit formé par la sainte parole de Dieu. On n'est pas des gens, quelqu'un a dit que Dieu a créé l'homme, l'homme s'est replié sur lui-même et il a créé Dieu à son image. C'est ce qu'on voit présentement. Mais nous sommes des gens qu'on est humbles devant le Seigneur. On réalise qui nous sommes, on réalise qui il est. Et on vient devant lui et le cri de notre cœur est ceci, « Seigneur, change mon cœur ». Seigneur, si tu vois de quoi en ma vie, veux-tu le toucher? Veux-tu l'enrayer? Veux-tu, Seigneur, avec ta grâce, je veux te ressembler de plus en plus? Fait que nous sommes conscients du péché. Nous ne sommes pas dominés du péché. Nous avons été sauvés. Notre esprit a été régénéré. Maintenant, nous avons un désir, vraiment un désir qui vient de Dieu. Seigneur, nous voulons te plaire. Et Seigneur, si tu vois quelque chose dans ma vie qui ne te plaît pas, Seigneur, qui n'est pas agréable à toi, veux-tu me changer? Et on se soumet, on vient souvent dans la repentance devant le Seigneur. S'il y a de quoi dans mon esprit, puis l'Esprit Saint me tape sur l'épaule, dit Greg, ce que tu as dit là n'est pas correct, ce que ta pensée n'est pas correct. On vient au Seigneur. Et la Bible dit que le sang de Jésus-Christ nous lave de tout péché. Donc, on ne se laisse pas dominer. On est enfant de Dieu. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Mais on sait que c'est quand même une réalité qui est là. Et on veut toucher d'autres passages là-dedans. Fait que le monde n'a rien à nous enseigner concernant le péché. Et l'Église, dans le sens religieux, n'a rien, parce que l'Église a banalisé le péché. L'Église a donné des listes de péchés, puis le monde en a jusque-là. Hein? Tout était péché dans le temps, n'est-ce pas? Ils ont manqué le bateau, ce que c'est vraiment l'essentiel, le cœur du péché. Et je trouve que même l'Église, écoute, je ne suis pas un prophète, je ne me prends pas pour un autre, mais dans les églises évangéliques, les gens qui s'en tiennent supposément à la parole, il y a une lâcheté, il y a une paresse, il y a une déviance. Présentement, c'est qu'on minimise ce que c'est le péché. On ne saisit pas pourquoi, n'est-ce pas, le péché, la définition du péché. En gros, si vous voulez voir la façon que Dieu voit le péché, vous n'avez que de voir Jésus, cet agneau de Dieu qui se tordait sur une croix, sur un arbre. On a juste à voir ce que le Seigneur a subi avant. Avant même, dans la Semaine Sainte, toute la résistance, toute la méchanceté qui était contre lui. Mais savez-vous, c'était dans le plan de Dieu. Je sais que vous connaissez l'histoire, mais il faut le souligner à notre esprit. La Bible dit, le prophète Ésaïe dit dans 53, il dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, et nos iniquités ont été mises sur lui. » Et la Bible dit aussi que le Seigneur est devenu le Fils, le Saint Agneau de Dieu sans péché. La Bible dit, Paul dit qu'il est devenu péché pour nous à notre place. Il n'a pas péché, mais il est devenu péché pour nous. Fait que, est-ce que c'est grave? Bien, regardez ce que Dieu a fait à son Fils Jésus-Christ. Regardez le travail, la profondeur, l'incroyable souffrance que Jésus a fait. Et le fait est ceci, c'est à qui cela a été fait? À celui qui était l'agneau de Dieu, celui qui peut ouvrir les seaux, mais seulement lui qui aurait pu mourir à notre place. Jésus, son sacrifice est bon pour tout le monde, pour n'importe qui vient à lui. Donc, merci Seigneur d'avoir pris nos péchés. Et le travail que le Seigneur a fait est complètement adéquat pour enlever tous nos péchés, il a fait. Et tous ceux que la Bible dit que tous ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? On a un plan grandiose. On a un plan qui a été fait depuis même avant le temps, dans l'éternité, dans le cœur de Dieu, un plan merveilleux que lui pourvoirait un agneau, il pourvoirait quelqu'un pour nous sauver, nous libérer de nos péchés. Et il l'a fait. Et c'est le seul moyen, je le dis bien, il est le seul moyen qu'on puisse se présenter devant Dieu sans péché. Aucun autre moyen, aucune église, aucune philosophie, aucune bonne volonté, des bonnes qualités, quoi que ce soit, il n'y a rien qui puisse nous sauver que le sang de Jésus-Christ. Ce matin, je veux le souligner, parce que c'est une bonne nouvelle. Et ça donne une confiance terrible dans le Seigneur. Seigneur, ton sacrifice est suffisant ce matin. Et nous disons gloire à Dieu et nous bénissons le Seigneur. Et le fait que nous savons que nous avons été délivrés de la péché, ça donne de la gratitude, ça donne de la louange. On bénit le Seigneur, on sait que c'est lui. Et donc on se prosterne devant lui. C'est grâce à lui, ce n'est pas à nous. On ne met pas la confiance dans nous, on met la confiance uniquement en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on peut bénir le Seigneur. Je suis sauvé, nous sommes sauvés. Alléluia. Alléluia. Donc, que nous, en tant qu'Église, que nous restons fidèles aux Écritures, qu'on soit ferme dans ce que Jésus-Christ nous a enseigné, la personne du Seigneur. Et nous voulons que ça soit le Seigneur qui forme nos croyances, notre foi. Il faut que ça soit éduqué, ça soit basé sur ce que Dieu dit. Amen. On vit dans un temps vraiment qu'on rejette pas mal toutes ces choses-là, mais on n'est pas de ceux qui rejettent, on est de ceux qui reçoivent. Fait qu'on voit finalement les conséquences du péché partout, ce que j'ai dit tantôt. On voit toutes sortes d'évidences de cela. Et le péché dans l'homme, parce qu'on a la tendance à nommer, à cataloguer les péchés. Ah, ça c'est un péché, ça c'est un péché. Ça c'est juste les symptômes. La vraie façon de voir, c'est de comprendre que le péché est autre chose, c'est plus profond, c'est dans la nature. On va regarder ça un peu, l'origine de cela, dans quelques instants. Mais le péché, ce n'est pas un petit défaut. Hein? Petite tendance, on dit ça ce temps ici. Le pécheur ou le péché ne peut pas se guérir lui-même. La religion ne peut rien faire là-dedans. Il y a eu une illustration, que peut-être je l'ai déjà donnée. C'est vieux, mais quelqu'un a posé la question. Il dit, un chien, est-ce qu'il est chien parce qu'il jappe, il aboie, ou jappe-t-il parce qu'il est un chien? Vous savez, moi, je peux japper pas mal bien comme un chien. C'est un don que j'ai, fait que je ne l'expose pas tout de suite là, dans l'église. Mais si vous voulez venir me voir après, il peut y avoir une démonstration. Ça vous coûtera quelque chose quand même. Ah non. Donc, non. Un chien, il jappe parce qu'il est chien. Et le prophète Jérémie, dans Jérémie 13, 23, il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? C'est inné. Fait que les gens n'aiment pas entretenir cette pensée que le péché est en moi. Non, je ne suis pas plus méchant qu'un autre. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas... Hein? Et puis là, l'homme... D'où ça vient? Il se justifie. Je ne suis pas si méchant que ça. J'ai fait cela. Et c'est toujours les balances, les bonnes choses, les mauvaises choses. Plus de bonnes choses. Fait que là, puis les gens disent, ouais, ça doit être ça. Non, ce n'est pas ça. Aucunement, la Bible dit, puis je vais simplement vous lire quelques passages qui nous expliquent. Psaume 51, 7. David dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » La maman à David n'a pas commis le péché. C'était juste une façon de dire, « Quand je suis venu au monde, je suis pécheur. » Qui a enseigné le petit bonhomme de 1 an et demi de voler le biscuit et de mentir là-dessus? Qui lui a enseigné cela? Bien, il a appris de ses parents. La nature, ce petit gars-là qui vole, on peut le voir quelques années plus tard, enfin, je n'exagère pas, mais on peut le voir aussi en prison, plus tard. Donc, cette attache à nous, cette inné. Jérémie 17, 9 et 10 dit ceci, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? » Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon ses fruits. Fait que le prophète dit bien, c'est tortueux le cœur, il n'y a pas de limite à ce que le cœur peut faire. Je pense qu'on le voit, n'est-ce pas, sans être négatif, sans vouloir, n'est-ce pas, nous attrister, mais on voit présentement dans le monde, on dirait que c'est il y a quelque chose qui a été enlevé et les gens font ce qu'ils veulent. Chacun est une loi à lui-même. Et c'est cruel, et c'est un jungle, et ça gâte, ça ruine la vie. On voit ça partout. Mais c'est la nature de l'homme. Il y a aussi, je vous lis un passage dans Romains 3. Je ne lis pas tout le passage, je ne veux pas vous déprimer, mais c'est quand même bien. Voilà Paul... Dans l'Épître aux Romains, il nous explique, et il fait ça d'une façon magistrale, il fait ça d'une façon profonde, il définit le péché. Bon, dans le verset 9 du chapitre 3, il dit ceci. Il dit, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Paul, catégoriquement, et nous fait comprendre que tout le monde est pécheur, que tout le monde a besoin du salut de Dieu. Et il dit, voilà ce qu'il écrit, selon ce qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. » Tu dis ça à les églises présentement, ben voyons donc, quelle image négative. On est mieux que cela. Non, non, la Bible dit, sans Christ, n'est-ce pas? Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Le gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour trompés, et ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant les yeux. Ce que nous voyons, ce que nous constatons, ce qui clignote, c'est que présentement, il n'y a pas la crainte de Dieu. On se moque de Dieu, on se fie de Dieu. Mais il y a un peuple, par exemple. Et merci Seigneur, nous sommes de ce peuple, on a la crainte du Seigneur. Puis nous voulons rester dans la crainte, non pas avoir peur, mais nous voulons avoir cette crainte de Dieu. Nous voulons avoir cette tendresse devant Dieu. Nous voulons avoir cette attitude, Seigneur, si je fais quelque chose, je veux te glorifier. Et Seigneur, je me prends en main, puis ton Esprit Saint me prend en main. Seigneur, je pratique, je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. On est sensibilisé à cela. N'est-ce pas? On n'est pas condamné. On ne vit pas sous une espèce de je ne sais pas quoi, là, de une pensée qui nous condamne. Non, on est libéré de nos péchés. On est vraiment sauvé de nos péchés. Mais pourtant, nous voulons rester dans cette marche avec le Seigneur. Plus loin, dans le chapitre 3, il dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et quand l'enfant de Dieu saisit cela, c'est libérateur. Vous savez, on ne peut même pas être sauvé si on ne se voit pas un jour comme perdu. Dans l'Ancien Testament, il y avait la loi. Pendant quoi? 2000 ans, enfin des centaines d'années, il y avait la loi, des règlements. Et tout cela dirigeait les gens, faisait comprendre à des gens, vous êtes pécheur, Dieu est saint. Vous n'êtes pas suffisant, lui, il est saint et suffisant. On n'a plus la loi maintenant. Mais la Bible dit, Jésus dit, quand l'Esprit Saint viendra, il vous convaincra de la justice, hein, du péché et du jugement à venir. Quel enseignant! Quelle profondeur! Le monde ne nous enseigne pas cela. Et même les églises ne nous enseignent pas ça. Fais ton petit possible et tu verras. Non, non, l'Esprit Saint, et puis à un moment donné de notre vie, il dit, Greg, tu es pécheur, tu as besoin de moi, tu as besoin de mon sacrifice, tu as besoin de croire en moi, tu as besoin de te donner à moi. Et dans un instant... Dans un instant, je suis transporté de mon humanité, de mon péché, de ce royaume. Je suis transporté dans ce royaume de lumière et je comprends maintenant. Je comprends le jugement à venir. Ça ne me fait pas peur. Je comprends. Je comprends qu'il est juste, mais je comprends qu'il est venu pour me sauver. Et je reçois pleinement, non pas partiellement, si je fais mon possible puis je suis bon petit gars. Non, non, vous ne serez jamais plus sauvé que vous êtes là présentement. Vous ne serez jamais plus sauvé que vous êtes. Oh oui, mais pasteur, je ne suis pas parfait. Ben, je le sais. Tout le monde le sait. Mais nous sommes en chemin. Et l'Esprit Saint en vous et en moi me donne un désir, même une repentance. Seigneur, je veux marcher avec toi. J'ai besoin de toi. Et le Seigneur nous sanctifie. Vous savez, il y a le salut. Le salut est donné. Tu es né de nouveau. Tu reçois la justice de Christ. Tu es sauvé. Pas partiellement, sauvé. La sanctification découle de cette expérience avec le Seigneur. Maintenant, le Seigneur est en train de nous sanctifier. Et il fait ça toute une vie. C'est un processus. Le Seigneur nous travaille. Et quand on est venu au Seigneur, c'est par la grâce, par le moyen de la foi qu'on a été sauvés. Et maintenant que nous sommes sauvés, c'est par, enfants de Dieu, écoutez, un secret, c'est par le même moyen, la grâce de Dieu. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. J'en ai besoin de la grâce de Dieu. Et on se fie sur lui, on regarde, non pas sur nous autres mêmes, non pas, n'est-ce pas, la façon que je suis plus chrétien que d'autres, puis j'ai plus de dons que d'autres. Et puis, mets ça dans la poubelle, là. Ça n'a aucune importance. Ce qui a l'importance, c'est qu'on regarde le Seigneur et puis on donne toute la gloire à lui. C'est lui qui est le chef de l'Église. C'est lui qui est le sauveur. C'est lui qui se tient proche de nous, rempli de grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et on se tient dans cette grâce. On nage dans cette grâce. On reçoit cette grâce. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce dans ma vie. Et je suis content que vous bénissez le Seigneur pour la grâce de Dieu. Il y a un autre passage dans Éphésiens. Si vous n'êtes pas convaincu du péché encore, non, je pense que nous saisissons, mais enfants de Dieu, ne bougez pas les anciennes bornes. Ce qui nous a été donné, ça ne change pas. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous, on est des gens qui s'en tiennent à ce que lui, il dit. C'est ce qui nous différencie du monde entier. On est ceux qui sont nés de la parole. Pierre dit qu'on est nés de la parole. On est des gens qui aiment la parole du Seigneur. Il y a une différence. Tout le monde vit selon leur propre parole, leur propre philosophie, leur propre désir. Justement, Éphésiens 2 dit, « Vous étiez morts. » Il parle des gens à l'église d'Éphèse. Ce qu'ils étaient autrefois, je me vois là-dedans, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Savez-vous ce que c'est le péché? Ce n'est pas des petites tendances, c'est de la rébellion. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu, de la nature de Dieu, de ce que Dieu veut. Nous aussi, Paul dit, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair. Convoitise dans le pluriel. Sans Jésus-Christ, sans que le Seigneur soit la passion de notre cœur, ce que nous visons dans la vie, il y a toutes sortes de l'homme de lui-même a toutes sortes de convoitises qui le laissent tout le temps vide, assoiffé, cherchant quelque chose. Toutes sortes de convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça, c'est dans le passé. Il dit, on était cela. Mais le passage après, il y a trois points. Il ne faut pas oublier ça. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir, ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce pour sa bonté envers nous en Jésus-Christ. As-tu un autre message meilleur que cela? Si vous l'avez, venez me voir après l'assemblée. Ce message est pour le maintenant. Un message qui vient de l'éternité, manifesté dans la chair, manifesté à cause de son grand amour, manifesté à cause de la grâce de Dieu qui est venue par Jésus-Christ. Et maintenant, c'est même, il dit, dans l'éternité, il va même manifester encore plus de grâce dans l'éternité. On ne veut pas autre chose que cela. Il n'y a pas autre chose que cela. Et quand le Seigneur, par son Esprit Saint, en marchant avec le Seigneur, il nous touche avec ses vérités, ça réchauffe notre cœur. Et ça nous corrige, n'est-ce pas? Et ça nous donne la bonne façon de voir. Et même de comprendre ces choses-là, ça nous fait comment voir le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a même des chrétiens qui sont tentés par le monde. Mais une fois qu'on voit clair, on met une X dessus. Et on prie, Seigneur, je veux vivre vraiment pour toi. Je ne veux pas de ces choses-là. Amen. Le Seigneur fait tellement de choses. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Jésus est toujours cet agneau de Dieu. Maintenant, au commencement, c'est là que ça a commencé, le péché. Imaginez-vous, le péché a éclaté dans un paradis, dans un jardin. Et savez-vous, ça me vient à l'idée, le péché a éclaté aussi même au vrai paradis avec Lucifer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, dans le passage dans Ézéchiel, je crois, il y a 5 ou 6 fois qu'il dit, « Je monterai, j'élèverai mon trône, je. » Savez-vous comment on peut définir le péché? Je. Et au commencement, dans le jardin, l'homme a été créé, l'homme et la femme a été créé, et on sait qu'il y a eu la chute de l'homme. On sait que le péché, on parle du péché originel. Et dans Genèse 2, 16 et 17, il dit, « L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Voilà, ça semble, juste regarder ça superficiellement, c'est pas grave. Adam et Ève, ils ont pris une décision, ça n'a pas bien tourné. Non, c'est la rébellion. C'est d'où vient la nature du péché. Tous ceux qui sont nés après eux avaient la même nature. Et cette chute de l'homme a affecté tellement de choses. Surtout l'homme. C'était une désobéissance exprès. C'était la désobéissance volontaire. Il voulait aussi devenir comme Dieu, indépendant. C'est moi qui décide. C'est moi le boss. C'est moi le patron. Et l'homme vient avec cette même nature, cette même attitude. Il dit, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme des dieux. Ça fait penser du Nouvel Âge, ça fait penser de notre société, notre monde présentement. C'est on valorise l'homme. C'est que c'est l'estime de soi, c'est entitlement, c'est que on est choyé, on est gâté pourri là. Tout le monde est parfait. Tout le monde est enfin égaux, tout le monde enfin c'est toutes sortes de choses, c'est que ça élève l'homme plutôt que d'élever le Créateur. Plutôt que de s'humilier, « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Fait que Adam et Ève, ils l'ont fait. Maintenant, le péché, enfin, la désobéissance, ils voulaient savoir, peut-être intellectuellement, c'était le péché, mais en désobéissant à Dieu, en choisissant de désobéir à Dieu, ils ont goûté de cela. Ils sont devenus pécheurs. Et c'est exactement, c'est pareil, aujourd'hui le même principe. Il y avait de l'orgueil, il voulait devenir comme Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes des serviteurs, nous sommes créés par la main de Dieu. Et la désobéissance, le Seigneur ne peut pas mettre ça en dessous du tapis. La désobéissance, même dans l'Ancien Testament, quand le premier roi d'Israël, Saül, il était rempli d'orgueil, il était centré sur lui-même, Et le prophète est venu lui dire, il dit, le royaume, la royauté, Dieu l'a arraché de tes mains. Il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la rébellion ou la résistance ne l'est moins que l'idolâtrie. Quand on choisit, quand on met devant Dieu, quand on dit Dieu, ma volonté vaut plus que ta volonté, c'est la rébellion. Là, ça devient vraiment, là, on comprend plus. C'est grave devant Dieu. Et ce qui est important, ce n'est pas de la façon que les hommes définissent le péché, c'est de la façon que Dieu le voit. C'est vraiment là, on vient à sa compréhension des choses. Fait que quand l'homme a péché, ça a changé la nature de l'homme. Maintenant, il n'est plus en harmonie. Il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus de fellowship avec Dieu. Ça a changé sa relation avec Dieu. Le péché fait cela. Ça a changé sa relation avec Dieu. Maintenant, il a peur de Dieu. Maintenant, il est coupable. Maintenant, il se cache de Dieu. Le péché fait cela. Et ça a changé, ça a perturbé sa relation aussi avec d'autres. Vous savez, le péché fait maltraiter les autres. On n'aime pas les autres. Ça se manifeste comme cela. Et même le péché a fait ceci, c'est que l'homme est en guerre avec lui-même. Ce n'est plus l'esprit qui mène. Avant la chute, c'était l'harmonie, c'était communion avec Dieu, esprit et esprit. Mais quand l'homme a chuté, c'est la chair qui a pris le dessus. Et nous sommes la bataille avec nous, même en tant que chrétiens, on a encore notre chair. C'est toujours là, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné maintenant de l'Esprit Saint. Il nous a donné de la parole de Dieu. On n'est plus victime et on ne se tient plus comme victimisé. On se lève et le péché dans notre vie, le Seigneur lave, la grâce de Dieu est là et on continue de marcher droitement, fermement, avec conviction vers le Seigneur. Et il marche avec nous. Dites-vous Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, la chute de l'homme, c'est triste, c'est quelque chose qui a été fait, que Dieu a vu tout de suite, même dans Genèse, il avait déjà un plan. Dieu a toujours un plan. Il n'y a pas un plan A, B, C, il a un plan A. Et la rédemption était déjà là. Dieu éternel avait déjà un plan pour nous sauver. Le péché a même affecté la terre. Je suis dans Romains 8, de vous voir combien ça a été allé loin, dans Romains 8 et 18. Donc, même la terre a été maudite en quelque sorte. Il y a eu des conséquences sur la terre. Et dans Romains 8 et 19, il dit ceci, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Ça parle de nous, ça parle de la création. Et la terre attend une libération. Ça serait en même temps que nous. « Car la création a été soumise à la vanité, à la futilité, à cause du chute, à cause d'Adam et Ève, non de son gré, elle ne voulait pas cela, mais à cause de celui qui l'a soumise, Dieu, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. » Il y a de l'espérance là, il y a de l'espérance en nous. « Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Est-ce que vous voyez un peu votre avenir là-dedans? C'est cette terre renouvelée, cette terre enlevée de cette malédiction maintenant, et puis les fils de Dieu qui prend le contrôle. Les fils de Dieu, c'est notre héritage, Dieu nous le donne. Il dit, « Or, nous savons jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Il y a des gens qui se mettent à genoux, « Ah, c'est le climat, c'est le réchauffement de la planète, c'est les gaz, c'est toutes sortes de choses, et puis ça devient presque une religion. » Je sais qu'il y a des facteurs, on nie pas certaines choses, Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en arrière de cela, il y a un plan merveilleux de Dieu qui s'accomplisse. C'est les douleurs de l'enfantement. Fait qu'on voit les douleurs, on voit toutes sortes de choses qui se passent. Et là, Jésus dit, quand vous verrez ces choses, levez votre tête parce que votre rédemption est proche. Dieu a un plan. Et nous, on s'aligne avec son plan. On n'est pas de ce monde, on est des pèlerins. On est des voyageurs. On quitte ce monde, mais ici, on a le privilège de vivre pour le Seigneur et de vivre pour l'avenir. Si vous n'avez pas une bonne façon de voir l'au-delà, l'éternité, bien ça va aller mal ici-bas. Mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'on voit cela et ici, on voit correctement. On voit avec les lentilles du Seigneur. On interprète les choses. On voit le monde pour ce que le monde est. Et laissez-moi vous dire, si vous ne voyez pas les problèmes, et ne laissez-vous pas emparer, ne laissez-vous pas attrister par cela, nos yeux sont fixés sur Jésus-Christ. Il a un plan éternel, et même ce qui se passe dans la nature, on voit tout est à l'envers. De toute façon, tout est à l'envers. Je ne suis pas un prophète de malheur, je suis optimiste de nature, mais le Seigneur ici dit qu'il a un plan. Eh bien, on lit plus loin. 23, et ce n'est pas elle seulement, mais pour nous, aussi. Hein? OK, c'est plus juste la terre. Et ce n'est pas seulement elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. C'est le down payment de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ça s'en vient. Mon corps n'est pas sauvé. Moi, je suis sauvé. Mon esprit est sauvé. Le vrai moi, je suis sauvé. 100 000 à l'heure, 100 % et vous aussi. Mais ici, il y a quand même cette influence. On attend la rédemption de notre corps. Plus de lunettes, plus de maux, plus de douleur, plus d'arthrite, plus de cancer. Enfin, on peut continuer là. On vit ces choses-là, ça nous affecte. Mais on attend, il y a un jour qui s'en vient, et on soupire, et même on sait qu'on va être complètement délivré. Et notre esprit nous donne cette assurance. Notre esprit met en nous cette foi dans le Seigneur. Peu importe ce qu'on vit ici-bas, on sait que Seigneur, il y a un gros poids de gloire. Il dit, en dépit de tes souffrances, un gros pesanteur de gloire qui sera révélé pour nous et en nous. Hallelujah. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Bon, la question est ceci. Est-ce que nous avons à lutter encore avec une nature de péché? Oui. J'ai deux messages ici, là. Mais il faut que ça soit juste un message, là. Fait qu'il y a des pages, là, avec des numéros qui... C'est mêlant. Et puis, si je suis mêlé un peu, ça va passer. Ça va passer. Et puis là, je vais vite, là, mais juste quelques passages qui soulignent le fait que le péché, même en tant que chrétien, ça existe. On n'est pas des gens qui ferment les yeux. Il y a des gens qui disent, non, une fois que tu es sauvé, tu ne pécheras jamais. Non, non, c'est fini. Non, non, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Dans Jacques 3, il dit, « Nous branchons tous de plusieurs manières. » C'est écrit à des chrétiens. Jacques 5 et 15 dit, « Confessez-vous vos péchés les uns les autres et priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. » C'est biblique. Jacques 1er, chapitre, versets 13 à 15, dit ceci, « Que personne dise que quand je suis tenté, que c'est Dieu qui me tente. » Dieu ne tente personne, Mais il dit, vous êtes tenté quand vous êtes attiré et amorcé par votre propre convoitise. Le Seigneur vient, il fait ce ménage, on met ça devant lui, et le Seigneur nous sanctifie, un travail de sanctification. 1 Jean, 1er chapitre, 7 à 10, dit ceci, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de tout péché. » Amen. Fait que et Jean aussi, dans ses épîtres, il écrit maintenant en tant que vieil homme, il dit, « Je ne veux pas que vous péchiez, je vous écris afin que vous ne péchiez. Mais si vous péchez, nous avons un avocat. » Fait que l'ennemi ne vienne pas vous harceler. « Oh, vous êtes chrétien, puis là, regardez ce que vous faites. » Vous avez l'autorité, vous avez une connaissance, et vous lui mettez ça en pleine face. Vous confessez les Écritures, vous confessez la grâce de Dieu, et on va dans la repentance devant le Seigneur, et le Seigneur nous lave, et on est même plus fort qu'avant. Parce qu'on a appris des choses, c'est comme une soudure, là où c'est brisé, le métal, vous soudez, puis c'est plus fort que le restant. Et Dieu sait ce qu'il fait, hein? C'est ce qu'il fait avec nous. Des fois, on fait une gaffe, mais le travail de Dieu, la grâce de Dieu me travaille, et la repentance, et puis à un moment donné, l'espérance et la foi reviennent, et là, je suis plus fort qu'avant! Alléluia! On a un message glorieux. On est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Dites-vous Amen, parce que si vous ne dites pas Amen, je vais sauter en bas. Alléluia! Non, je ne sauterai pas en bas, là. J'ai plus de 18 ans. Alléluia! Bien, j'ai juste... dernière page. Fait que je pense qu'on l'a souligné. Le salut, c'est instantané. C'est fait dans un moment. Naissance de nouveau. Il n'y a rien à ajouter à cela. Oui, ajoute dans le sens, non pas pour être plus sauvé, mais pour que travailler à votre salut. C'est de se laisser sentir, de devenir dans moi, dans mon âme, dans ma chair, devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. Mais dans mon esprit, je suis 100% comme Jésus-Christ. L'esprit est sauvé, l'esprit est parfait. Son esprit est en mon esprit. C'est ça qui nous fait enfants de Dieu. Fait que si on regarde à l'extérieur, si on juge selon les actes, le behavior, le comportement des fois, et puis des fois les chrétiens sont bons à cela, hein? On est bon à juger les autres, hein? On est moins sévère sur nous autres, mais pour les autres, là, hein? Et puis là, il y a ça, puis ça peut pas être chrétien. Donner de la chance, prie pour la personne, aimer la personne. Il dit, vous qui êtes fort dans la foi, il dit, soutenez ceux qui sont faibles. Hein? Juste un petit enseignement. Non, c'est notre foi est dans le Seigneur. Le salut se fait instantanément. Et voilà, la sanctification, ça se fait toute une vie. Je dis souvent, je suis en train de devenir ce que je suis. Qui suis-je? Je suis un enfant de Dieu. J'ai la justice de Jésus-Christ. Je suis accepté dans le bien-aimé. Je suis en route. Je vais me tenir devant le Seigneur, pas comme pécheur, comme enfant de Dieu. Mais en chemin, le Seigneur me travaille aussi. Je deviens de plus en plus comme lui. Enfin, finalement, c'est chacun de nous, c'est ce que nous faisons. Bon, je lis un dernier passage qui se trouve dans Romains. Dans Romains, chapitre 8. Alors, cette parole de Dieu, là, vraiment, c'est vraiment une nourriture. Et quand on mastique, on digère cela, ça fait un travail en dedans, dans notre pensée. Nos pensées sont renouvelées. On voit le Seigneur tel qu'il est et on glorifie le Seigneur. On ne vit pas sous une condamnation quelconque. Seigneur, tu es glorieux, puis mes yeux sont fixés sur moi. Ne gardez pas vos yeux sur vous. Gardons nos yeux sur le Seigneur. C'est là que je suis changé. Amen. Dans Romains 8 Et on va terminer dans ce passage, Romains 8 et 5. Il dit ceci. Romains 8 et 5. Écoutez bien ce que dit la bonne, vieille, éternelle parole du Seigneur. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, » écrit ça les chrétiens, est-ce que c'est possible qu'un chrétien vive selon la chair? Mettez-en. Qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Est-ce que vous voyez une clé ici, là? C'est la clé de l'esprit. Ceux qui servent de la clé de l'esprit, bien, eux, c'est différent que la chair. La chair n'aura aucun pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas sous la loi, dit la Bible. Où est-ce que je suis maintenant? OK, verset 6. Et l'affection de la chair, et la chair, ça comprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, je ne sais pas si vous lisez ça, l'affection de l'esprit, c'est la vie, c'est la paix. Car l'affection de la chair est inimitié. Faut que je me vois dans le attends, oui. Bon. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. La chair, elle ne sait pas d'apprivoiser cela. Elle ne sait pas, on dit en anglais, de t'aimer ça. Ça ne marche pas. La chair, là, pas dit « je crucifie ma chair ». Et l'esprit sait comment dealer, comment traiter notre chair, hein? Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et il dit que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Je suis mort au péché. Positionnellement, et ce que je vis, je suis mort au péché. Il est mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie à cause de justice. Et si l'Esprit, regardez, verset 11, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur un peu? Verset 12. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Amen. On ne doit rien. Oh, je suis là, ben, vous savez, c'est tough la vie chrétienne, puis ben, la victoire, il me semble que c'est loin de moi. Non, 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 non. Nous ne sommes pas redevables, on ne doit rien à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. My, 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 my. Levez-vous, s'il vous plaît. Je m'excuse, j'ai pris...